VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Ici à Dakar, très heureux à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Tout d'abord, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé mardi à Niamey au Niger que la force du G5 Sahel sera une bonne réponse aux questions sécuritaires et aura le soutien de la France. Le point avec Morgane Guiriec.
Je suis convaincu que la mise en œuvre de cette force, qui sera déployée sur les trois fuseaux, sera une bonne réponse aux questions sécuritaires dans le Sahel, a souligné Jean-Yves Le Drian hier à Niamey. Il a assuré que la force sera validée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 30 novembre prochain. Les dirigeants des pays du G5 ont décidé le 2 juillet à Bamako de la mise en place d'une force conjointe qui doit commencer son déploiement entre septembre et octobre. À terme, elle doit comprendre 5000 hommes, mais son financement est loin d'être bouclé. Seuls 108 millions d'euros ont été promis sur les 423 millions jugés nécessaires. La Mauritanie, un des États membres, a appelé lundi les bailleurs à mettre la main à la poche et une conférence de planification des contributions est prévue le 16 décembre prochain à Bruxelles.
Au Rwanda, l'opposante rwandaise Diane Rwigara, qui avait tenté de se présenter à la dernière présidentielle, a été inculpé avec sa mère et sa sœur pour incitation à l'insurrection. Les détails avec Solange Nyamulisa.
Les trois femmes ont été inculpées après avoir subi, selon les dires de Diane Rwigara, des interrogatoires au centre d'investigation de la police pendant les trois premières semaines de septembre, puis ont été placées en garde à vue. Faustin Kouzi, porte-parole du bureau du procureur, a déclaré que l'accusation a demandé la détention provisoire d'Adeline Rwigara, sa mère, Diane Rwigara, et de sa sœur Anne Rwigara. Les trois femmes sont poursuivies pour incitation à l'insurrection. Diane Rwigara est par ailleurs poursuivie pour contrefaçon de documents dans le cadre de sa candidature à l'élection présidentielle du mois d'août. Dans une interview fin septembre, Madame Rwigara avait dénoncé le caractère politique de ses ennuis judiciaires. La police avait confisqué ses papiers d'identité, ordinateur et téléphone. Le rejet de sa candidature par la commission électorale pour une question de procédure a été critiqué par des gouvernements occidentaux et des associations de défense des droits de l'homme.
Au Cameroun, le gouvernement qualifie les séparatistes anglophones de terroristes depuis le mois dernier, suite à l'explosion de plusieurs bombes artisanales, notamment à Bamenda, le chef-lieu de la province anglophone du Nord-Ouest. Le tout dernier incident de ce genre a eu lieu dans cette même ville, dans la nuit de lundi à mardi, à proximité des locaux de la police. John Lyndon.
L'explosion n'a pas fait de victimes, elle s'est produite près du groupement mobile d'intervention, une unité de la police. Deux bombes artisanales ont été placées, mais une seule a explosé. L'autre a été désamorcée par la police. L'attentat n'a pas été revendiqué. Le 18 septembre, des bombes artisanales ont déjà explosé à Bamenda, puis le 22 septembre à Douala, la capitale économique. Après ces explosions, Yaoundé avait qualifié les séparatistes anglophones de terroristes. Dimanche dernier, les indépendantistes ont tenté de proclamer l'indépendance des deux régions anglophones sur les disques contre le Cameroun. Un important dispositif policier a été déployé, 14 personnes ont été tuées et 5 prisonniers sont morts en tentant de s'évader de la prison de Kumbu. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme alors que d'autres réclament la partition, un scénario que rejette catégoriquement le gouvernement de Yaoundé.
En Libye, 4 tués, 15 blessés, tel est le bilan d'un attentat suicide ce mercredi dans la ville de Misrata, selon des sources sécuritaires. Un kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur du complexe des tribunaux, un bâtiment du centre-ville de cette localité qui est sous le contrôle des forces loyales au GNA, le gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale. Crise migratoire, le procès d'un Érythréen soupçonné d'avoir dirigé un vaste réseau de passeurs est en cours depuis hier devant la cour d'assises de Palerme en Italie, malgré des soupçons d'erreur d'identité. Yacouba Ouedraogo.
L'homme présenté comme Medani Yedego Meredi a été arrêté en mai 2016 à Khartoum et extradé vers l'Italie. Il est soupçonné d'être le général d'un réseau de trafiquants de migrants avec des antennes en Libye, au Soudan, aux Émirats Arabes Unis et dans plusieurs pays européens. Dès l'annonce de son extradition, plusieurs personnes qui ont eu affaire au général ont déclaré ne pas le reconnaître. Des proches ont assuré que la personne arrêtée s'appelle Medani Tesfamariam Béré, un réfugié érythréen de 29 ans, installé à Khartoum depuis 2014. Selon les enquêteurs, Medani Yedego Meredi a organisé, à partir de 2013, le voyage souvent mortel de centaines de personnes à travers le Sahara puis la Méditerranée. Son réseau est accusé d'avoir affrété le bateau qui a pris feu et coulé le 3 octobre 2013 au large de Lampedusa, faisant plus de 366 morts.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis maintenant, le mystère pèse toujours sur le mobile du crime de masse commis par Stephen Paddock, l'auteur de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire récente des États-Unis avec un bilan de 59 morts et 527 blessés. Ce comptable et gérant d'appartement à la retraite était un habitué des hôtels casinos où il pariait des sommes très importantes. Stephen Paddock avait droit au port d'armes, un privilège garanti par le second amendement de la Constitution américaine. Et rien ne laissait présager qu'il pouvait commettre un tel forfait. Comment alors expliquer son acte d'une cruauté extrême? Eric Maniracusa a joint un professeur de sciences politiques à l'Université de Floride, le docteur Richard Conley.
Il ne se présentait pas avec des problèmes, il n'avait pas de problème avec la police, il n'était pas criminel, pas connu aux autorités locales, donc c'est impossible de prédire un événement comme ça. Et c'est bizarre parce que il avait de l'argent, il était millionnaire, il avait un avion, une belle maison à quelques heures au nord de Las Vegas, il aimait les casinos, il avait une petite amie. Elle est aux Philippines en ce moment. Même ses voisins qu'on a interviewés ont indiqué qu'ils vivaient comme tout le monde. Donc c'est ça qui est tellement bizarre.
Professeur, à la genèse de ce droit de port d'armes, c'était le droit de se défendre. Mais ce qu'on voit, l'on se défend contre qui quand on tue des innocents?
C'est ça la question. Quel type d'armes doit-on avoir accès? Par exemple, moi, quand je vais en Arizona, notre petite maison est très isolée. La ville la plus proche, c'est à une centaine de kilomètres. On a des serpents, on a des coyotes, on a des animaux sauvages qui sont là. Ah, bien sûr, il faut se défendre. Ce n'est pas contre les voisins, mais plutôt les animaux sauvages. Ceux qui aiment chasser, bien sûr, on n'a pas besoin des armes à feu automatiques. Peut-être c'est ça qu'on doit discuter dans l'avenir.
Le tueur de Las Vegas détenait en tout cas toute une cargaison d'armes dans sa chambre d'hôtel, chez lui à la maison.
On se pose la question si les hôtels doivent essayer de plus surveiller les gens. Ce n'est pas anormal d'avoir des visiteurs qui restent dans un hôtel pendant une semaine ou deux semaines à Las Vegas. C'est un endroit où beaucoup d'Américains fréquentent. Et votre question est très bonne. Personne n'a remarqué qu'il devait faire beaucoup d'escales à sa voiture et puis remonter à sa chambre. Comment est-ce que c'est possible que personne n'a rien vu pendant toute cette histoire-là? Un autre problème, c'est que comment balancer les droits privés et le droit de l'hôtel, par exemple, de surveiller ceux qui fréquentent l'hôtel? Ça, c'est aussi très difficile parce que ce sont des établissements, des hôtels privés. On n'a pas le droit de surveiller les gens d'une même façon comme la police où il faut aller à un juge pour un mandat. Donc, quelle est la responsabilité des hôteliers dans cette affaire? C'est une question constitutionnelle aussi qui est très difficile.
Le docteur Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride. Le président Donald Trump est attendu aujourd'hui à Las Vegas, où il compte notamment réconforter les victimes de la tragédie. Hier, M. Trump a visité Porto Rico, où il a minimisé les dégâts causés par l'ouragan Maria, et dit Sango.
Quel est votre bilan, a demandé M. Trump, avant de poursuivre 16 morts contre des milliers. Donald Trump a comparé Maria avec Katrina, un autre ouragan du Nouveau 5 qui avait fait, le 23 août 2005, plus de 1800 morts dans la région de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Maria n'a fait que 16 morts à Porto Rico. Une grande partie d'habitants vit toujours sans électricité, sans accès à l'eau potable, ni au courant et parfois sans toit. Le président Trump a critiqué un leadership médiocre des autorités locales.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.